trouve dans une ville assez de mauvaise réputation. Mais la parole passe. La parole, vous voyez, traverse le pouvoir, elle traverse le savoir, et puis on est porté en face de Corinthe, à 500 km de là, juste en face, vous avez la grande ville d'Éphèse. Éphèse qui marie le religieux à l'économique, puisque Éphèse vit surtout, économiquement parlant, elle vit surtout de sa fameuse statue de l'Artémis tombée du ciel. Et on vous raconte à propos d'Éphèse deux petites anecdotes, l'anecdote des gens qui brûlent leurs livres de magie, et puis l'anecdote de la grande manif de, des orfèvres qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent plus, ils pourront peut-être plus vendre leurs petits ex-voto, leurs petits temples, leurs petites statues d'Artémis en or, en argent. Et ils menacent, ils sont menacés, pardon, d'être réduits au chômage. Et une anecdote, et si Luc nous raconte cette anecdote-là, c'est évidemment en nous faisant un clin d'œil, en nous disant, attention, regardez ce qu'il y a là en dessous. Comment il y a moyen d'utiliser l'économie, la religion, pardon, à la faire passer dans un système économique.
Donc les trois villes, c'est Philippe, Athènes et Éphèse.
Philippe, Athènes et Éphèse. Le pouvoir, le savoir et l'avoir. Alors, vous voyez, mine de rien, à travers tout cela, nous pensons que ce sont des anecdotes, bien sûr, ce sont des anecdotes aussi, et il les raconte parce que bon, il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire. Mais en même temps, il nous fait un projet. La parole traverse les réalités concrètes et elle est centrée sur la résurrection. Qu'est-ce que c'est que le Christ ressuscité vivant ? Maintenant, de nouveau, dit en termes de saint Paul éphésien, qu'est-ce que le corps concret du Christ ? C'est le ressuscité vivant à travers nos morts. Ben, c'est exactement ce qui se passe dans le texte de saint Luc. Mais saint Luc historicise la réalité. Il passe à l'histoire et il nous raconte les choses à partir de l'histoire. Et il fait de l'histoire comme parabole. Tandis que saint Paul va prendre la distance par rapport à cette histoire concrète et il va nous donner le principe. Principe réel. Comment Jésus ressuscité vit-il dans cette réalité de la parole livrée à tout vent? Et de même que Jésus avait vécu sa passion, sa, oui, la parole de ville en ville, c'est de 1536 à 2114. Et de même que Jésus était passé réellement par la mort pour parvenir à la résurrection, eh bien Paul va faire de même. Il va passer aussi par la mort, mais on ne nous la raconte pas. On nous raconte seulement son procès. Et saint Luc réussit cette gageure de nous faire passer depuis le chapitre 21e jusqu'au chapitre 28e, donc pendant 8 chapitres, avec un devant un homme qui est prisonnier, le témoin est prisonnier. Et c'est sa prison qui va bouger, mais il reste prisonnier. Et donc le témoin prisonnier, et le prisonnier est continue d'être témoin de la parole, donc c'est du chapitre 21-15 jusqu'à 28, à la fin du livre. Et donc là, c'est tout à fait, il est témoin de la grâce de Dieu, mais constamment en prison. Et vous allez voir Paul qui se défend devant les différents tribunaux, comme Jésus. Et tout le chemin de Paul va être repris à l'évangile au chemin de Jésus qui va vers sa passion. Montée à Jérusalem. Passage devant un tribunal juif, passage devant un tribunal juif. Passage devant un tribunal païen, passage devant un tribunal païen. Déclaration d'innocence pour Jésus, déclaration d'innocence pour Paul. Et vous voyez qu'il a composé vraiment les actes des apôtres parallèlement à l'évangile. Pour bien montrer que le témoin, c'est Jésus. De nouveau dit en termes d'Éphésiens, les membres sont membres du corps du Christ, membres chacun pour sa part. Vous voyez comment nous retrouvons finalement la même réalité, mais exprimée avec des procédés littéraires très différents. Luc faisant attention à la réalité concrète de l'histoire, et Paul, hein, en tout cas l'auteur des Éphésiens qui est tout à fait paulinien, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et Paul centrant sa réflexion sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce chemin de la parole de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous terminons. Ah oui, je vais encore quand même dire un petit quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Au début de la Passion, chapitre 22, il y a un discours de Jésus, ici, notre petit 22, il y a un discours de Jésus après la scène. C'est le seul avec Saint Jean de nous montrer un discours de Jésus. C'est un discours d'adieu. Hein, Jésus donne son testament. Au chapitre 20e, à Milet, en rentrant vers Jérusalem, au chapitre 20e, je vais le dire, mais ici, il le met un peu avant. Il y a une sorte de, par rapport à la Passion, il y a une sorte de décalage. Mais la fonction du discours elle-même, elle a exactement la même. Au chapitre 20e, Paul fait son testament aux anciens d'Éphèse qu'il a convoqué sur la plage de Milet. Et si vous comparez ce chapitre 20 au chapitre 22 de l'Évangile de Luc, vous allez découvrir pas mal d'harmonie. Si vous comparez aussi ce chapitre 20 à l'épître aux Éphésiens, vous allez quand même vous rendre compte que le vocabulaire est le même et que les thèmes sont pareils. Donc il y a quand même, là encore, vous retrouvez une parenté assez forte malgré donc, la structure très différente. Alors, encore une chose pour vous montrer le parallélisme, et puis je vais m'arrêter là. Ici, vous terminez au chapitre 24e par un chemin, le chemin d'Emmaüs. 24, vous avez Emmaüs. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27e, vous avez un parallèle étrange. C'est le naufrage de Paul. Vous direz, oui, entre Emmaüs et le naufrage, il n'y a pas de commune mesure, c'est exact. Mais si on regarde bien le texte, on voit que, et si on regarde surtout, si on fait attention à toutes aux différentes étapes et aux mots qui sont utilisés, on voit très bien que le chemin d'Emmaüs est la découverte progressive de la présence de Jésus au cœur de nos routes, au milieu d'un désappointement, d'une désespérance profonde. Et ça se termine par une Eucharistie, en tout cas, un repas qui renvoie à l'Eucharistie, de toute manière. Si vous regardez maintenant le voyage naufrage de Paul, avec le naufrage près de l'île de Malte, vous retrouvez exactement la même chose, dans une parabole différente. Ce sont les vicissitudes d'une communauté, une petite communauté chrétienne, symbolisée par Paul et peut-être quelques-uns de ses compagnons, il était avec quelques-uns de ses compagnons, au milieu du monde, le monde qui est composé de soldats, de la force et de compétences, de techniciens, il y a les marins. Oui. Et nous retrouvons là l'Église qui chemine au travers des vicissitudes humaines. Et vous avez à un certain moment, où, alors qu'on n'avait plus pris de la nourriture depuis longtemps, où Paul dit maintenant on va être sauvé, il faut manger. et il prend le pain, il le rompt, et de nouveau, ça devient un symbole eucharistique, la fraction du pain qui est reprise à ce moment-là. En plein milieu de la tempête. Cela vous montre combien Luc est toujours concret, mais en même temps, comment il parle symboliquement, à travers cette réalité concrète, pour nous dire, au fond, de quoi s'agit-il ? Quelles sont les réelles vicissitudes de ces premières communautés et où trouvent-elles leur unité ? Voilà, je m'arrête ici. Cet après-midi, nous allons, si vous voulez, à grandes enjambées, reprendre ce parcours pour essayer de... Je ne prendrai pas tout le texte qui a jusqu'à Z, comme je le fais d'habitude, mais nous prendrons les points importants de Saint-Luc et des Actes des Apôtres, et puis nous ferons référence à, j'allais dire, l'évangile des Éphésiens, à Saint-Paul des Éphésiens, pour voir justement comment la même réalité est exprimée de manière différente. Pourquoi dans l'Évangile est-il dit d'une certaine manière ? Pourquoi dans les Actes d'une autre manière ? Et finalement, pourquoi dans les Éphésiens encore autre chose ? Pour dire la même réalité. Voilà.
L'Évangile des Apôtres, il y a un parallélisme. On dit trois fois de Siméon comme de Étienne qui sont remplis de l'Esprit Saint, ou conduits par l'Esprit Saint. Et alors mes yeux ont vu ton salut, alors je vois le ciel ouvert. Un grand parallélisme, nous en dit entre Siméon et Étienne.
Siméon et Étienne, il y a un parallélisme.
Trois fois l'Esprit Saint à côté.
Et d'ailleurs, il faut encore reprendre beaucoup plus que ça aussi, mais il faut encore reprendre tout le discours. Maintenant, essayez de voir avec vous le détail. C'est-à-dire que ce que nous allons essayer de faire, c'est d'abord de regarder d'un peu plus près les cinq sections de Luc, de voir un certain nombre de rapprochements avec la section correspondante des Actes. Je dis bien un certain nombre de rapprochements. Il ne faut pas vouloir faire de l'allégorie, il ne faut pas vouloir coller une section sur l'autre. Parce que la matière elle-même demande un traitement différent. Jésus n'est pas l'Église primitive, pourtant c'est le même corps du Christ. Il faut dire les choses comme cela. Alors comment Luc le dit-il ? De quelle manière le dit-il ? Et puis quand nous aurons vu ce que la première section nous donne dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, nous verrons comment on redit les choses d'une autre manière dans saint Paul. Parce que, en fait, l'Épître aux Éphésiens a un peu le même canevas, avec une différence, c'est que saint Paul va mettre, comme toujours dans ses épîtres, que ce soit maintenant Paul lui-même, ou bien un de ses disciples proches qui a composé l'Épître aux Éphésiens, au fond cela n'est pas notre affaire la plus importante. L'important, c'est de savoir que ce texte est canonique, il est vraiment repris par l'Église comme sa tradition vivante, et comme de la mouvance paulinienne, pas seulement de la mouvance paulinienne, comme le serait par exemple l'Épître aux Hébreux, qui est paulinien, mais de beaucoup plus loin, mais vraiment très très proche de la pensée, en tout cas de la pensée de Paul, telle qu'elle se dit dans les grandes épîtres. Commençons, si vous voulez bien, ce petit travail. C'est pour ça que je prendrai alternativement la traduction, que quelle que soit maintenant la traduction que vous prenez, que ce soit la traduction que nous avons faite, qui est plus littérale, ou que ce soit dans la tombe ou dans la Bible de Jérusalem, peu importe. Tout d'abord, des deux côtés, et dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, vous trouvez un mot à l'adresse d'un certain Théophile. On a longuement épilogué sur ce monsieur. Qui est-il ? Est-ce que c'est celui qui a payé l'édition, le sponsor de l'époque ? Est-ce que c'est celui qui a pris sur lui de faire imprimer? Est-ce que c'est un homme de l'Église primitive? Tout cela est possible, mais nous n'avons pas de notation certaine. Plusieurs ont vu, et il me semble qu'on peut dire cela aussi, étant donné que le mot théophile veut dire ami de Dieu, comme Philothée, ou bien Théotime, de saint François de Sales. Il s'agit probablement de tout un chacun, tout lecteur qui prend en main ce livre et qui se voit adresser cette parole. Et il me semble que nous pouvons vraiment mettre dans ce Théophile chacun d'entre nous, ami de Dieu, et destiné à le devenir davantage. C'est pour cela d'ailleurs que nous commençons cette lecture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'Évangile et au début des Actes, on reprend cette adresse. Puisque beaucoup ont entrepris de recomposer un récit au sujet des faits qui se sont accomplis parmi nous, et donc Saint-Luc se met dans la ligne, dans la suite d'autres évangélistes, il me sembla bon à moi aussi, après l'avoir suivi attentivement tout depuis l'origine, de t'en écrire un récit suivi, dans la suite, illustre Théophile. Et au début des Actes des Apôtres, nous avons ceci, la première parole, le premier livre, dirions-nous, la première parole, mais c'est aussi la première parole qui est Jésus, je la fis au Théophile, au sujet de tout ce que Jésus avait commencé, voyez, le terme de commencer qui arrive. Il a parlé d'origine dans l'Évangile. Maintenant, il dit au sujet de tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où, ayant instruit par l'Esprit Saint les apôtres qu'il s'était choisis, il fut enlevé. Le terme qu'il utilise, ce n'est pas « il est monté », mais c'est « il fut enlevé ». Être enlevé, c'est toute une tradition ancienne, comme Élie a été enlevé, comme Moïse a été enlevé, mais c'est lui-même qu'il a inhumé, qu'il a enterré, d'après le livre de Deutéronome. Mais être enlevé, c'est-à-dire être passé en Dieu, une manière de dire la mort, mais qu'il ne fait pas attention au fait que quelqu'un décède, il fait attention au fait qu'il passe en Dieu. Donc voilà, même prologue, même introduction, de part et d'autre, au même personnage. Mais les Actes des Apôtres nous donnent une précision de plus. C'est à eux, à ces apôtres, qu'il avait choisi, donc, par l'Esprit Saint. C'est intéressant de voir que dès le début des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint est présent, qu'il se tint présent vivant. Dès le départ, Esprit Saint est le vivant. Le vivant, c'est le ressuscité. Nous le savons d'après l'évangile de Luc, à la finale, chapitre 24. C'est à eux qu'il se présenta vivant, après avoir souffert, et cela au milieu de nombreuses preuves, de nombreux signes de cette présence vivante. Pendant 40 jours, se laissant voir à eux, et parlant des choses du royaume de Dieu. Intéressant parce que, tout à fait à la fin du livre, au chapitre 28e, des Actes des Apôtres, nous retrouvons cette mention du royaume de Dieu que Paul est en train de dire à Rome. Et il faisait bon accueil à tous ceux qui pénétraient auprès de lui, et je trouve le dernier verset, proclamant le royaume de Dieu et enseignant les réalités au sujet du Seigneur Jésus-Christ avec toute assurance et sans entrave. Et encore un mot intéressant. Il est prisonnier et il parle avec toute assurance et sans entrave. La parole est libre, même si l'homme est prisonnier. Donc voilà un peu la manière dont il enveloppe tout son récit en deux volumes. Alors nous commençons, si vous voulez bien. Nous avons, au début de l'Évangile, vous savez, il y a deux annonciations, deux annonces. vous avez l'annonce à Zacharie, pour lui dire qu'il va avoir un fils, qui est prêtre et qui officie dans le temple. Début du chapitre 1er de Luc. Puis, il y a une annonce à Marie, qui est femme, qui est à Nazareth, nous ne sommes plus à Jérusalem, nous sommes à Nazareth, avec deux lieux différents. Nazareth, Galilée, quand vous pensez Galilée, vous pensez aussi l'universalisation, l'universalisme. Il y a Saint Matthieu va souligner cela en parlant de Galilée des nations, en reprenant un passage de l'Isaïe. Galilée des nations, c'est déjà l'ouverture vers le monde païen. Annonce à Zacharie, le temple, Jérusalem, donc là nous sommes vraiment au cœur du judaïsme, au cœur du sacerdoce. Et l'annonce à Marie, c'est déjà une ouverture, la femme, et puis la Galilée et Nazareth. Après cela, nous avons une rencontre des deux mères, la visitation. Intéressant de voir que Élisabeth et Marie vont se rencontrer et vont se révéler l'une à l'autre ce qu'elles portent. Précisément, le mystère de la présence de Dieu dans ce monde, avec celui qui l'annonce et celui qui est annoncé, mais qui se trouve encore dans le ventre de leur mère. L'un et l'autre. Et vous comprenez tout de suite comment le ventre de la mère d'un côté et de l'autre vont pouvoir signifier la présence de Dieu dans son peuple, Élisabeth, la présence de Dieu dans son église, c'est aussi son peuple, Marie. Et vous avez une rencontre qui va de nouveau marquer la continuité. Ça, c'est vraiment la pensée de Luc. Visitation, c'est-à-dire la rencontre de l'un et de l'autre, de ce qui était l'Ancien Testament dans ce qu'il avait le plus pur en quelque sorte, Jérusalem, avec déjà son ouverture aux nations. Après cela, nous avons les naissances. Naissance de Jean-Baptiste. Celui qui était annoncé naît, Jean-Baptiste. Puis la naissance de Jésus. Avec chaque fois la visite des voisins. Les voisins, les gens qui habitent tout autour de la maison d'Élisabeth et Zacharie, les voisins. Avec Jésus, il y a aussi des voisins. Mais les voisins, ce sont les bergers. Les bergers sont les voisins. Ce sont les plus proches. Jésus est proche des bergers dans les deux sens du terme. Berger du peuple, et en même temps berger, qui était à l'époque où Jésus naît, qui était une profession qui n'était pas du tout recherchée, c'était les hommes, les marginaux. Et vous avez aussi la circoncision, appartenance au peuple d'Israël, on l'a trouvé des deux côtés. Donc là aussi, vous avez un parallèle, vous savez que Luc aime bien travailler en parallèle. Ils ne travaillent pas tellement comme les juifs. Les juifs travaillent surtout, comme nous l'avons déjà vu, en chiasme, en chandelier, là. A', B', C'. Tandis que Luc aime bien des visions parallèles. Parce que dans un parallélisme, vous pouvez montrer ce qui est semblable, mais vous pouvez aussi faire surgir la différence. Fils du Très-Haut. Il sera prophète du Très-Haut, Jean-Baptiste, c'est ainsi qu'il est nommé dans l'Annonciation. Fils du Très-Haut à Marie. Prophète, fils. La différence est déjà marquée. Donc la visitation, les rencontres, puis alors la naissance de Jean-Baptiste avec les voisins de la circoncision. Vous avez chaque fois donc les deux blocs qui sont mis en parallèle l'un avec l'autre, l'un concernant Jean-Baptiste, l'autre concernant Jésus. La rencontre. Un point concernant Jean-Baptiste, un autre concernant Jésus. Et puis, plus rien au sujet de Jean-Baptiste. Il est lui aussi, comme je vous ai dit Saint-Paul, là, il est lui aussi mis en réserve, ou au football si vous voulez, en attendant le jour où il devrait paraître pour Israël. Si c'est une manière de dire, je ne m'occupe plus de lui pour le moment, mais vous allez voir, il va revenir au point, à point nommé. Et puis, c'est pour ça que je vais mettre tout de ce côté-là, vous avez la présentation au temple avec Simon, donc, et là nous allons revoir ce que Émile avait dit ce matin, le parallèle, la présentation au temple avec Siméon et Anne, qui, au nom de l'Ancien Testament, viennent reconnaître celui qu'ils attendent, et qui sont remplis de l'Esprit Saint. Nous verrons d'ailleurs les expressions, c'est pas tout à fait la même chose. Présentation au temple. Puis, vous avez la prophétie de Siméon, la prophétie à Marie. Vous allez voir combien cette prophétie à Marie, vous allez la retrouver à travers tout l'Évangile et les Actes des Apôtres. Donc, je mets là plus la prophétie de Siméon. Sur le sort de Jésus, prophétie de Siméon. Et puis, il y a encore un passage qui est typique et qui reprend un peu la prophétie de Siméon. C'est Jésus perdu et retrouvé. Jésus, je mets simplement Jésus au temple. Donc perdu et retrouvé. Voilà ce qu'on appelle généralement l'enfance de Jésus. Mais tel que Luc la voit, tel que Luc la présente, et dans la prophétie de Siméon, et dans le Jésus perdu et retrouvé au temple, vous avez en quelque sorte l'annonce de la passion et de la résurrection de Jésus. Il y a une souffrance, il y a une épreuve, il y a une disparition, dans la, Jésus perdu au temple, là c'était en prophétie, ici c'est en réalité, Jésus disparaît, puis Jésus reparaît. Et la première parole que Jésus dit dans Saint-Luc est « Ne saviez-vous pas qu'il me fallait être chez mon Père ?» C'est ça. Ou bien « aux affaires de mon Père » comme on traduit parfois. Et « chez mon Père » est juste. Et la dernière parole de Jésus sur terre, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Toujours intéressant de voir la première parole de Jésus et la dernière parole de Jésus, Jésus terrestre, hein, dans les évangiles. Chaque fois, ils sont symptomatiques, significatifs de la perception, de la mentalité de l'évangéliste. Donc, ça, c'est la manière dont Saint-Luc nous dit les origines de Jésus. Origine divine, c'est pour ça qu'il y a une annonciation. Il y a un ange. Et pas n'importe quel ange, puisque c'est Gabriel. Et pourquoi est-ce Gabriel? Parce que dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et au chapitre 9, deux fois, comme ici deux fois au chapitre 8 et au chapitre 9, au prophète Daniel, qui s'interroge sur la signification de l'histoire à son époque, comment est-ce que ça va tourner? Eh bien, il y a un ange, Gabriel, et le mot Gabriel veut dire Dieu est mon homme. Gabriel, hein, mon homme, mon mâle, mon homme. Hein, elle, Dieu. Et donc, cet être vient lui parler de la naissance du Messie. Dans deux prophéties énigmatiques. Et quand le Messie vient, qui voulez-vous qu'il vienne le dire? Sinon, le même Gabriel. Vous voyez qu'il y a une tradition qui est vraiment enracinée dans l'Ancien Testament. Et cela, moi ça me frappe de plus en plus, Luc l'a approfondi d'une manière absolument unique. Peut-être même plus intéressante que Matthieu, Marc et Jean, qui eux sont tellement habitués à l'Ancien Testament qu'ils pensent avec cet Ancien Testament. Tandis que Luc, le détail donne des indications plus précises parce qu'il va parler, il parle dans ses évangiles, dans son évangile et dans ses actes, il parle pour des gens qui n'ont pas tout cet arrière-fond vétérotestamentaire. Ils ne sont pas nés dans cet Ancien Testament. Et donc il faut leur en dire l'importance pour leur marquer la continuité, que la révélation est déjà en route depuis très longtemps. Donc voilà un peu comment il voit la rencontre entre l'Ancien Testament et le Nouveau.
La fois passée, Jean, je te l'interromps, tu avais donné un homme, une femme, un obstacle, un enfant, un cantique.
Oui. C'est exactement comme ça qu'il travaille.
Donc là, c'était en triptyque.
Oui. Enfin, c'est toujours en parallélisme. C'est vrai qu'il y a un obstacle à passer, l'obstacle, c'est ici là, l'obstacle de la non-foi. Et alors, un cantique, il y a, quatre, il y a en fait trois cantiques qui interviennent. Hein. Il y a le cantique de Zacharie, il y a le cantique de Marie, et puis, au moment de la naissance, tandis que le cantique de Marie, c'est le premier, il vient au moment de la rencontre. Et le troisième, ce sont les bergers. Hein, c'est les anges aux bergers qui viennent annoncer, et vous avez gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Hein, c'est ça le cantique. Le cantique signifie quoi dans cet évangile? Le cantique signifie la participation du lecteur. Le cantique devient liturgie. C'est-à-dire, on met dans la bouche d'un personnage important, le cantique, c'est-à-dire le cheminement liturgique qui va devenir quoi ? Ben, la prière de l'Église. Effectivement, hein, le Benedictus, c'est notre prière du matin, ou l'Aude, le Magnificat, c'est la prière de l'après-midi, et le Gloria, la prière de l'Eucharistie. Et puis nous avons un quatrième, c'est le Nunc Dimittis. Maintenant tu peux laisser partir en paix ton serviteur selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est si bien.
Accompli.
On accomplit la journée. Donc vous voyez que déjà dans cette manière de proposer l'évangile, Luc nous propose déjà un chemin d'église où l'homme et la femme sont concernés, où il y a à mettre au monde à la fois celui qui va annoncer Jésus et Jésus lui-même, et à découvrir notre propre destin dans le ciel, c'est-à-dire passage par épreuve et glorification, c'est-à-dire par cantique. Donc rien que cette manière de nous proposer les origines de Jésus n'est pas anecdotique, en quelque sorte. Ce n'est pas le chemin chronologique de tout ce qui s'est passé. Il y a déjà une perspective qui est annoncée. L'Ancien Testament et le Nouveau.
Le cantique serait un peu l'équivalent du rôle des chœurs grecs.
Absolument. D'ailleurs, si vous regardez dans l'Apocalypse, les cantiques sont tout le temps présents. Il n'y en a pas que un ou deux, mais ils sont tout le temps présents comme la reprise par la communauté humaine, la communauté ecclésiale, comme la reprise de la mort et de la résurrection de Jésus. Car ce n'est pas, l'Apocalypse parle de la mort et de la résurrection de Jésus, ne parle pas de la fin des temps, sinon la fin des temps qui est Jésus lui-même. Donc voilà en gros une proposition des deux premiers chapitres, mais qui ne forment pas tout l'ensemble de la première section. Ici, oui.
Luc était conscient de cela, ou bien c'est par après que l'on découvre cela dans son écriture?
Et la question est de savoir si on le découvre parce qu'il n'en était pas conscient, donc on l'y met, ou bien si on le découvre parce qu'il l'a dit lui-même. Alors, si vous regardez le texte, non pas seulement dans une vue superficielle, mais dans la manière dont il est composé, puis si vous mettez, c'est justement ça qui est intéressant, si vous mettez en parallèle cet évangile avec les actes des apôtres, vous découvrez beaucoup plus de choses que ce qu'une première lecture nous ferait voir. Or, personnellement, je crois que Saint-Luc était conscient, non pas de la manière dont nous le sommes, parce que nous travaillons un peu différemment de lui. Hein? Vous n'êtes peut-être pas conscient de la manière dont vous écrivez des lettres, mais si vous prenez une dizaine de vos lettres, et si vous voulez les analyser, vous verrez que les structures sont semblables, ou quand elles sont différentes, on peut expliquer pourquoi elles sont différentes. Vous verrez que le vocabulaire est semblable, et vous verrez qu'il y a certaines expressions qui reviennent, je dirais, spontanément. Est-ce que vous êtes conscient? Oui et non. Oui et non. En gros, intuitivement, oui. De façon analytique, non. Maintenant, donc ça c'est que quand nous écrivons des lettres, ce sont des réalités tout à fait personnelles. Maintenant, ce texte n'est pas une réalité personnelle. Ce texte est le fruit d'une longue étude. Nous pensons que les évangiles ont été écrits comme cela. Hein? Non. Les évangiles ont été écrits après avoir été médités, discutés, approfondis, et toujours sur fond d'Ancien Testament, bien entendu. Car la seule écriture qui existait à l'époque, c'était l'écriture vétérotestamentaire. À telle enseigne que, figurez-vous que j'ai fait le calcul pour Saint Matthieu, que nous avons fait cette année, il y a à peu près 1100 versets dans Saint Matthieu. Je crois que c'est 1071, pour être tout à fait clair. Eh bien, sur ces 1071 versets, j'ai dénombré 520 citations ou allusions à l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié de Saint Matthieu est de l'Ancien Testament. C'est intéressant quand même ça. Hein? C'est-à-dire que tout son matériau est Ancien Testament. Bien sûr qu'il est relu, qu'il est retraité, hein, d'une nouvelle manière. C'est vrai, c'est quand même extraordinaire. Ces gens avaient tellement, habitaient tellement cette écriture qu'elle leur sortait de tous les côtés. Et donc, les expressions, mais pas seulement les expressions, les allusions à tel ou tel fait, ou bien les expressions tout à fait concrètes, qui ne viennent parfois qu'une fois ou deux dans l'Ancien Testament, sont reprises dans l'Évangile de Matthieu.
Est-ce qu'on peut parler aussi de Saint Jean?
Saint Jean, c'est moins. Celui qui cite le plus l'Ancien Testament, c'est d'abord Saint Matthieu, cité ou allusion, et le deuxième, c'est l'Apocalypse. Et c'est du même ordre, c'est à peu près 500. Et les passages de l'Ancien Testament qui sont le plus cités dans le Nouveau, ce sont les psaumes et Isaïe. Et là aussi, ce sont des choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les livres qu'on connaissait le mieux, hein, et que l'on méditait le plus fréquemment, c'était Isaïe et les psaumes. La prière. De nouveau, nous tombons dans la prière.
Et comme toute synagogue devrait avoir le boulot d'Isaïe.
Ben oui. Et Isaïe, c'est la grande fresque de toute l'histoire. Ça prend 500 ans d'écriture. Ça prend 500 ans pour composer le livre d'Isaïe tel que nous l'avons. Et c'est intéressant de savoir tout ça. Alors, donc ça, c'est une manière de percevoir la naissance du corps de Jésus. Et ce corps de Jésus n'est pas seulement un petit corps individuel, c'est un corps qui vit au milieu d'un grand corps, qui est un peuple. Et ce grand corps est symbolisé par les personnages d'Ancien Testament, y compris donc Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste, Marie et Joseph, Siméon et Anne. Oui, ils sont massivement présents aussi au début du Nouveau. Et Luc nous dit, attention de ne pas louper ce passage. Il ne faut pas judaïser pour cela, mais il faut être bien conscient que Israël ne peut pas passer à côté. Il est celui qui nous offre, qui nous apporte le Christ. Mais pour ça, il fallait déjà qu'il l'attende. Et donc toute l'attente messianique trouve son sens en Jésus. Parce qu'il nous dit, il ne nous dit pas de la manière dont moi je le dis. Il nous le dit à sa manière, c'est-à-dire en racontant l'histoire. Mais il ne nous arrête pas là. Je prends tout de suite les chapitres 3 et 4, donc ça c'est 1 et 2. On va quand même mettre plus 1 et 2 pour que nul m'en ignore. Et maintenant je dis Luc 3, 4. Ah. Luc 3, 4. Luc 3, 4. Comment va-t-il présenter les commencements. Tout d'abord, il aime bien nous placer au milieu de l'histoire du monde. Déjà, au tout début de l'Évangile, nous avions Arriva, chapitre 1er, verset 5, Arriva au jour d'Hérode, roi de la Judée, oui, nous sommes bien situés, un certain prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme, des filles d'Aaron, de la tribu de Lévi, et son nom était Élisabeth. Nous sommes dans une tradition sacerdotale. Et Israël est le peuple sacerdotal. Au chapitre 3, début du chapitre 3, comment commence-t-il son texte ? Or, la 15e année du gouvernement de Tibère César. Nous sommes situés par rapport à l'Empire romain. Et il va situer tout dans la fin des Actes des Apôtres par rapport à l'Empire romain. 15e année du gouvernement de Tibère César. César, c'est au nom de César que Césarée a été construite par Hérode le Grand. Tiens, Hérode le Grand. Ce n'est pas le Hérode. Si, c'est le Hérode ici. Hein? Arriva au jour d'Hérode, roi de Judée, c'est le même. Comme Ponce Pilate gouvernait la Judée, nous sommes de nouveau chez les Romains, et Hérode était tétrarque de Galilée, et comme Philippe, son frère, était tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide, c'était les Romains qui avaient fait ce partage. Et Lysanias, tétrarque de la Mylène, donc on avait divisé le royaume en quatre tétrarques. Sous le grand prêtre Anécaïf, on revient quand même à la réalité du judaïsme, arriva une parole événement de Dieu sur Jean, le fils de Zacharie, dans le tétrarque. Voilà, on reprend, on ouvre le frigo et on va chercher Jean-Baptiste. On a besoin de lui. Et ça, c'est un de ce que j'appelle les thèmes récurrents dans Saint-Luc. C'est fort intéressant de regarder ces thèmes et puis on se dit, il y a quelqu'un qui est mis en réserve et on va le chercher quand on en a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous faites évidemment, tout quand vous mettez quelque chose au frigo. Hein. On va le mettre là, vous le trouvez quand on en a besoin. Dans l'écriture de l'Évangile, ça veut dire Dieu a un dessein. Dieu a une idée. Dieu a un projet sur le monde. Et donc, au moment où quelqu'un doit intervenir, eh bien, il le fait intervenir. Donc, c'est pour dire que les choses ne dépendent pas uniquement de la programmation humaine. Et c'est pourquoi des anges interviennent, et c'est pourquoi l'esprit intervient. Pour nous dire, attention, ce ne sont pas des choses qui sont uniquement programmées par l'homme. Il y a un dessein, il y a un regard de Dieu, il y a un dessein de Dieu dans cette affaire-là. Arriva une parole événement. Voilà encore un autre terme important. En hébreu, ça se dit un davar. Un davar, c'est à la fois une parole ou une action. C'est pour ça que nous avons traduit ce mot-là. Réma. Saint-Luc l'a traduit comme ça. Réma. Saint-Jean dira logos. Tandis que Saint-Luc préfère le mot Réma. Réma, c'est une parole agissante. L'action de Dieu est une parole. L'action de Dieu dans l'histoire est une parole. La parole de Dieu est une action. Dieu dit, et il travaille, et il crée. Et donc, nous avons de nouveau la reprise du parallèle. Jean, Baptiste, Jean, au jour d'un. Voilà. Première vision, mais c'est situé dans le contexte du monde romain. Jean au Jourdain. Il vint dans tout le pays du Jourdain, proclamant un baptême de conversion et de rémission des péchés. Comme il se trouve écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète. Il nous cite Isaïe le prophète, et c'est Isaïe 40. Je cite ici. Alors ceux qui ont fait la lecture du livre d'Isaïe sauront qu'il y a trois Isaïe. que c'est toute une tradition, que le premier Isaïe au chapitre 8e raconte l'histoire, que le deuxième Isaïe à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55 relit ou remédite l'histoire, pour dire tiens, quelle est l'idée, le dessein de Dieu à travers cette histoire. Et puis un troisième Isaïe à partir de 56 jusqu'à 66 qui dit, quand on est rentré à Jérusalem après l'exil, on pensait que tout irait mieux. Or, ça ne va pas si bien que cela. Et il faut découvrir Dieu présent dans la vie monotone et difficile et dans les bagarres que l'on rencontre tous les jours. Il faut trouver Dieu là-dedans. Dieu se trouve au milieu d'une flaque de boue. Jérusalem n'est pas encore reconstruite, hein, tout va mal, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, etc. Vous voyez, ça ne va pas bien. On n'a pas d'argent pour reconstruire. C'est vraiment la difficulté. Et le troisième Isaïe, il vous met la présence de Dieu à travers tout ça, pas de n'importe quelle manière, comme une fiancée parée pour son époux. Attention, ça va venir, ça. Mais voilà la manière dont Isaïe voit les choses. Parce qu'à travers tout le livre d'Isaïe, il y a précisément cette lumière que l'on appelle Apocalypse, c'est-à-dire révélation, qui traverse tout le livre et qui vous donne le regard de Dieu sur tout ça. Alors, il ne faut pas s'étonner que vous allez trouver ici une parole qui annonce le retour d'Israël sur sa terre. Comme il se trouve écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète, voix d'un clamant dans le désert, apprêtez le chemin du Seigneur. Faites bien droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et colline sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits, et les pistes raboteuses des chemins nivelés.